Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique sacrée. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro qui est consacré lui aussi, encore une fois, aux merveilles de la musique sacrée. Et je me suis dit, pour faire ce numéro, que nous allons rester dans les festivités précédentes, puisque lors de la précédente édition, eh bien, on avait parlé des fêtes de fin et de début d'année, et je me suis dit qu'il fallait rester dans cette dynamique de joie, dans cette ambiance sautillante, pour vous souhaiter le meilleur pour cette année à venir et rester dans une ambiance de fête. Et pour commencer dans la fête, eh bien, je me suis dit que j'allais vous faire un grand panorama de ce que peut la musique sacrée dans ce thème-là, bien entendu. Vous doutez bien que les compositeurs ont composé maintes et maintes choses, toutes plus joyeuses les unes que les autres. Et alors on va commencer par la période baroque, parce que quand on parle de joie, il y a ce mouvement naturel de la joie, de la danse, également dans l'instrumentation avec la période baroque, et notamment chez un compositeur, un grand génie de la musique. Il s'agit de Handel, un compositeur génial à plus d'un titre, non seulement par sa vie, il a fondé non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre académies de musique pour lutter face aux aristocrates qui essayaient de lui mettre des bâtons dans les roues dans la guerre entre la musique nationale et la musique italienne, et en plus de ça, un génie de compositeur admiré au-delà même de la mer, de la Manche, admiré même par Jean-Sébastien Bach et par tous ses contemporains, et pour cause, quand on compose le Messie, dont je vais vous passer un extrait maintenant, il y a de quoi courber la tête face au génie de cet homme. Une œuvre d'autant plus extraordinaire qu'elle a été composée dans un moment de faiblesse par Handel, parce qu'il avait le syndrome de la page blanche, il ne savait plus où il en était, et c'est grâce au poème d'un ami qu'il a pu se remettre à l'écriture, et en quelques jours seulement, il a composé cette œuvre, son magnum opus, qui reste une fresque gigantesque de la vie du Christ, centrée autour de sa naissance et de sa résurrection, et bien entendu le thème de Rejoice Greatly, réjouissez-vous grandement, ici sublimé par la voix superbe de Amanda Forsyth, par le jeu également, tout en délicatesse, tout en humeur, avec le clavecin sautillant, ainsi que les cordes là aussi d'une grande présence du Boston baroque, et sous la conduction bien inspirée de Martin Perlman. Thank you. la légèreté de George Frederick Handel qui, ici, dans ce Rejoice Greatly, réjouissez-vous grandement, vient apporter du sourire et des étoiles et des pétillances dans les yeux et dans les oreilles de ses auditeurs. C'est là aussi l'une des grandes forces de ce répertoire baroque qui est capable de tant de légèreté, tant de subtilité, avec une maîtrise de la voix aussi parfaite. Mettre en avant comme ça les solistes, c'est propre à cette magnifique période de la musique, et notamment avec le génie de Handel, ça ne peut être que plus parfait, et nous conduire vraiment à nous dire qu'il y a une forme de véhicule dans la musique qui nous, ben là aussi, qui nous conduit à sourire, à battre le tempo avec le pied et qui nous conduit bien entendu à apprécier ce genre de musique. En tout cas, c'est mon cas, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Bien entendu, le Messie de Handel, je vous le disais, il s'agit d'une fresque, c'est de la musique qui dure plus de 3 heures. Souvent d'ailleurs, quand elle est présentée en concert, on le découpe en plusieurs morceaux. Je vous invite à en découvrir toutes les parties naturellement parce qu'il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre, tant instrumental que vocal, avec des parties chœur, des parties solistes et des parties orchestrales qui sont toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Voilà donc pour cette première partie consacrée au baroque. Et là, mesdames et messieurs, on va faire ce que j'aime bien faire, un virage à 180 degrés et aller dans la période moderne avec Olivier Messiaen et ses fameux Transports de joie, un morceau presque obligé du répertoire d'orgue, tellement il est fameux, tellement il est extraordinaire. Orgiaque, ai-je envie de dire, quelque chose qui est de l'exubérance et de l'exultation totale. Quand on a cette musique-là, bien sûr, on pense à la façon de jouer du grand maître parisien de l'église de la Trinité, qui avait eu le droit, et ça c'est tout à fait extraordinaire, d'avoir son propre créneau, sa propre messe, la messe de midi, qui était appelée la messe des fous. Et là, l'organiste se déchaînait, il jouait tout ce qui lui passait par la tête et par les doigts, et ça donnait effectivement des messes de fous, décriées par certains bien entendu qui criaient en courant au diable, et d'autres bien entendu qui venaient voir les improvisations du professeur d'harmonisation et d'écriture du Conservatoire de Paris, et il y avait cette espèce de permissivité totale qui donnait lieu à cette exubérance de moyens et de compositions. Alors quand on fait face à ces transports de joie, avec l'écriture si particulière de Messiaen, qui est parfois extrêmement ramassée, extrêmement rythmée, on a presque une espèce d'invocation à l'Esprit-Saint, c'est d'ailleurs l'objectif de ce morceau-là, où il y a comme si les langues de flamme se divisaient partout, et comme si le grand coup de vent venait dans nos esprits et venait laisser échapper cette joie qui est si communicative ici. Alors vous allez entendre, ça commence avec des staccato, avec des accords très ramassés, et ensuite la pédale, elle, extrêmement profonde, extrêmement forte, et ensuite des jeux de textures, avec notamment sur le récit qu'il a beaucoup plus effacé, etc. Et une grande forme de virtuosité jusqu'à la fin de l'œuvre, d'une virtuosité terrible pour les doigts, je peux vous assurer que c'est quelque chose de vraiment difficile, une œuvre très difficile naturellement, comme souvent d'ailleurs chez Olivier Messiaen. Une fausse liberté qui est donnée à l'interprète, parce qu'il faut savoir que ce compositeur était vraiment axé sur le contrôle de sa partition, mais qui laisse échapper une joie profonde. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a énormément d'indications sur la partition, mais finalement, le but du jeu, c'est d'avoir l'air le plus libre possible. D'ailleurs, ça se sait dans la vie du compositeur, Olivier Messiaen, qui était amoureux des oiseaux. Il faut savoir qu'il a écrit des tonnes de compositions pour les oiseaux, tant à l'orchestre d'ailleurs qu'au piano, et il avait ses petits carnets d'ornithologie, se déplaçaient toujours avec, et bien sûr, on ne peut que penser à ces espèces de froufous d'oiseaux, qui là sont peut-être des références aussi à l'Esprit-Saint, à cette liberté, et donc à cette joie qui nous semble assez naturelle quand on entend les premières notes de cette composition, où il y a cette espèce de presque de volière immense dans laquelle l'auditeur est plongé, en plus avec l'acoustique et les rebonds des sons qui ricochent dans les églises, forcément ça donne un résultat complètement époustouflant, à la hauteur bien entendu du maître, qui là est ici interprété magistralement. Je dois dire que c'est une des plus belles interprétations que je connaisse, par Jean-Claude Reynaud, qui joue à Saint-Sernin de Toulouse avant la restauration, donc vous entendez l'orgue dans un état un petit peu primitif, si j'ose dire, assez proche finalement du son que l'on pouvait avoir lorsque Olivier Messiaen jouait à la Trinité. Il faut savoir que la Trinité, ça a toujours été un orgue qui a été, c'est un très bel instrument, un instrument de cavaillé-école, donc là aussi le parallèle avec Saint-Sernin existe, puisque ce sont les orgues de même esthétique, mais l'orgue de la Trinité était un petit peu presque sale, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'un entretien parfois un petit peu défectueux, et donc de débrouille, qui se ressent un petit peu dans le côté parfois parfois staccato, presque comme si on voulait éviter un cornement intempestif d'une des notes. Et c'est ça que je trouve assez fabuleux avec la musique d'Olivier Messiaen, c'est cette espèce de contrôle, d'exubérance, de joie et en même temps de profonde foi qui nous font découvrir ses chefs-d'œuvre. Voici donc Les Transports de joie sous les doigts de Jean-Claude Reynaud, à Saint-Cernin-Toulouse.
Thank you.
Et c'est avec cet accord parfait triomphant que se terminent ces extraordinaires transports de joie d'Olivier Messiaen, une œuvre plus que magique, plus que précieuse pour le répertoire de l'orgue et le répertoire de la musique sacrée, aux antipodes, je vous l'avais promis, de ce que peut faire bien entendu Handel dans un style tout à fait différent, non seulement par l'instrumentation mais également par l'esprit. Et bien entendu, l'écriture, vous doutez bien que le XXe siècle apporte son lot de différences par rapport à ce qui pouvait se faire avant, et c'est pour ça que je voulais véritablement vous faire entendre cette espèce de grand parallèle entre la joie d'antan et la joie presque actuelle, parce que je trouve que là aussi ça a beaucoup de sens d'écouter toutes ces différences-là. On va rester au XXe siècle avec un compositeur dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, il s'agit de Maurice Duruflé, un grand génie de la musique, notamment pour son interprétation, sa réappropriation, j'oserais dire plutôt, du grégorien, et notamment avec sa messe Cum Jubilo, une messe très particulière, puisque, comme souvent, Duruflé, pour sa musique sacrée, se réfère au chant grégorien. Il faut savoir que Duruflé était assez réticent, ça je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, avec les réformes notamment du Concile Vatican II, et pas parce que c'était un extrémiste de ce type de musique-là, mais il regrettait véritablement que le grégorien soit abandonné au profit d'un nouveau répertoire, d'ailleurs qu'il jugeait assez médiocre. Et donc, il a décidé de remettre le grégorien au goût du jour en se le réappropriant, en essayant de faire voir toute sa richesse, en le sublimant d'une certaine manière. Et je trouve que c'est pour ça qu'il faut vraiment entretenir ce type de répertoire, non seulement le véritable grégorien, qui a quand même 1000 ans d'histoire et qui a porté la foi pendant 1000 ans, et en plus, comme on peut s'en rendre compte en écoutant Duruflé, qui continue à porter les artistes, même contemporains. Alors cette messe Cum Jubilo, elle est particulière à plus d'un titre. C'est une messe de chœur d'homme déjà, et en plus de chœur d'homme à l'unisson, c'est uniquement pour baryton et baryton solo, et en fait, comme s'il s'agissait d'une prosodie grégorienne, eh ben ils vont faire toute leur messe à l'unisson. Et à côté de cela, bien entendu, vous doutez bien que ça ne sera pas aussi facile, il va déployer l'orchestre dans toute sa splendeur, c'est même carrément luxuriant, vous allez l'entendre, puisque j'ai choisi de vous faire entendre la version pour orchestre, comme d'habitude avec ce compositeur, il y a une version pour orgue qui existe, et là je vous fais entendre la grande version, la version la plus orchestrale possible, la plus concertante aussi, mais qui reste de la musique sacrée, et c'est pour ça que je voulais vous le faire entendre, le côté le plus festif, notamment avec cette interprétation gigantesque, il faut un orchestre d'une centaine de musiciens. Et vous allez voir tout le faste dont est capable le compositeur qui s'exprime ici dans le Gloria de sa messe Cum Jubilo. Bien sûr, écoutez le reste de la messe, mais le Gloria, c'est extraordinaire. Vous allez entendre par tout de suite l'annonce de ce Gloria, très festif, etc. Ensuite, on va laisser gentiment la place à la harpe qui donne un côté très doucereux, et puis par le baryton solo, et après, on rejoint les chœurs et toute la puissance de l'orchestre dans un amen final absolument jubilatoire. Et c'est là que je trouve qui est magique, c'est que le côté jubilatoire, d'ailleurs c'est le titre de la messe Cum Jubilo, avec joie, qui fait vraiment place à cette espèce de joie extatique, joie participative, et en même temps magique, extraordinaire, pétillante, vous allez l'entendre, qui est si communicative. Alors pour cette version-ci, j'ai choisi, on reste à Toulouse, de vous faire entendre la version de l'Orchestre National du Capitole avec les chœurs de l'Orphéon Donostiara, pardon. C'est Michel Plasson qui dirige son orchestre ici et qui, vous allez entendre, le fait dans une église avec une acoustique géniale, grandissime, et qui nous laisse place à cette joie immense. Voici donc le Gloria de la messe Cum Jubilo de Maurice Duruflé. Waouh, quelle claque, quel bonheur d'entendre une telle musique. Merci Maurice Duruflé, moi je n'ai que ça à dire quand j'entends ce genre de musique-là. Découvrez tout le reste de la messe qui est là aussi un petit bijou et de se dire vraiment que nous avons la chance d'entendre ce type de musique et que nous avons ce genre de composition. Si ce Gloria vous a plu et si toute cette messe vous plaît, je vous invite à aller sur le site de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin puisque nous donnerons cette messe en concert le 14 juin prochain. Venez donc prendre vos places, ça sera la version pour orgue et chœur d'homme, naturellement. Un très beau concert, je pense, à venir réserver vos places si ce répertoire vous plaît. Voilà pour aujourd'hui et ce répertoire autour de la joie, de la communication, de la joie que je voulais avoir avec vous autour de ces œuvres. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à Mathieu Duboc pour la réalisation de cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.